Et ce matin, j'ai choisi de lire avec vous dans le petit prophète Habacuc. Un petit prophète qui nous a donné le verset si connu, « Le juste par la foi vivra ». Dans le livre d'Habacuc, au chapitre 1, versets 1 à 4, sentence, ce qu'Habacuc que le prophète a vu. Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes? Jusqu'à quand crierai-je vers toi, violence, sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Ravage et violence sont devant moi. Il y a des querelles et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée et l'équité ne s'impose jamais. Parce que le méchant assaille le juste, c'est pour cela que l'équité est pervertie avant de pouvoir s'imposer. Et dans le chapitre 2, le livre d'Habacuc ne comprend que trois chapitres, et dans le chapitre 2, au verset 2 à 4, le Seigneur me répondit, « Écris la vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle aspire à son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle se réalisera bel et bien. Elle ne sera pas différée. Son cœur se gonfle, il n'est pas droit. » Mais le juste vivra par la foi. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 229, strophes 1, 2, 3 et 4, dans les louanges et prières, 229. vous invite à la prière. Seigneur, dispose nos cœurs à l'écoute. Permets que nous puissions entendre des mots qui nous réforment encore aujourd'hui, des mots qui nous permettent d'avancer dans tes voies justement, fidèlement. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Amen. Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes? Jusqu'à quand crierai-je vers toi violence sans que tu sauves? Le prophète Habacuc crie vers Dieu. Son problème à lui, à l'époque où il vit, c'est la guerre, les invasions, la violence des hommes, le sang versé, les crimes impunis. Le problème d'Habacuc est encore aujourd'hui notre problème, comme si rien ne pouvait jamais changer. Les humains déplacés, fuyant sur les routes la guerre, mourant en mer pour trouver une vie meilleure, abandonnés de tous. Les humains rejetés, entassés quelque part, puis ailleurs, dans des camps de fortune, sans que la terre ne devienne vraiment habitable, comme le promettait le prophète Ésaïe. Notre problème à nous, hommes et femmes du XXIe siècle, c'est encore la guerre qui écrase les civils, en Syrie, au Yémen, et les bombes qui n'épargnent plus les hôpitaux, mais les prennent même pour cible. Notre problème à nous, comme du temps du prophète Habacuc, est aussi ce profit malhonnête, ou parfois même institué légalement, qui creuse l'inégalité entre les hommes et qui fait que la valeur du travail d'un homme ne vaut pas tout à fait la valeur du travail d'un autre. Le prophète crie à Dieu son dégoût. Sa foi lui semble vaine, son cri semble inaudible, étouffé par des siècles d'humanité injuste, d'inégalité jamais réduite, de méchanceté jamais punie. Et pourtant la promesse de justice demeure dans la foi comme un horizon. D'autres prophètes ont crié après lui, de siècle en siècle, comme si tout restait toujours à faire. Jean le Baptiste criait aux hypocrites qui venaient se mettre en règle avec la justice de Dieu à bon compte, en demandant le baptême dans les eaux du Jourdain, semblant vouloir se purifier pour revenir le lendemain et recommencer. Il leur disait « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Il criait lui aussi. Jésus lui-même a crié aux marchands du temple « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière et vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Lui aussi a dû crier. Et sur la croix même, celui qu'on appelait Fils de Dieu a crié à ce Père qui le laissait crucifier. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comment penser la justice de Dieu si rien ne semble pouvoir l'établir ? Bien plus tard, dans la solitude de sa méditation sur l'épître aux Romains de Paul, un autre prophète criait sa révolte contre Dieu dans sa cellule monacale. Et voilà ce qu'il écrivait alors. Or moi, qui vivant comme un moine irréprochable, me sentais pécheur devant Dieu avec la conscience la plus troublée de ne pouvoir trouver la paix par ma satisfaction. Je haïssais d'autant plus le Dieu juste qui punit les pécheurs, nourrissant secrètement, sinon un blasphème, du moins un violent murmure. Je disais, comme s'il n'était pas suffisant que les pécheurs misérables et perdus éternellement par le péché originel soient accablés de toutes sortes de maux par la foi, par la loi du décalogue, pourquoi faut-il que Dieu ajoute la souffrance à la souffrance et dirige contre nous, même par l'Évangile, sa justice et sa colère? J'étais ainsi hors de moi, le cœur en rage et bouleversé. Et pourtant intraitable, je bousculais Paul à cet endroit, désirant ardemment savoir ce que Paul voulait, jusqu'à ce qu'enfin, Dieu ayant pitié, et alors que je méditais jour et nuit, je remarquais l'enchaînement des mots, à savoir, la justice de Dieu est révélée en lui, comme il est écrit, le juste vide par la foi. Alors je commençais à comprendre que la justice de Dieu est celle par laquelle le juste vit, du don de Dieu, à savoir de la foi, et que la signification était celle-ci, par l'Évangile, est révélée la justice de Dieu, à savoir la justice passive, par laquelle le Dieu miséricordieux nous justifie par la foi. Selon ce qui est écrit, le juste vit par la foi. Alors je me sentis un homme né de nouveau et entré, les portes grandes ouvertes, dans le paradis même. Voilà ce que Luther écrit sur cette illumination qui l'a transformée. C'est dans un cri de révolte vers son Dieu que le moine Martin Luther a pu trouver l'ouverture qu'il cherchait pour sortir de l'impasse d'une théologie du péché et de la rétribution. Dans son illumination, Martin Luther découvre que c'est dans la vie du Christ même, cet homme adopté par Dieu par pur amour, que se dévoile la justice de Dieu. La vie de Jésus donnée jusqu'au bout à l'accomplissement de sa foi en Dieu était donc la clé pour comprendre ce qui pouvait sauver l'homme du péché et de la culpabilité. Quand Luther parle de satisfaction, il parle de tout ce qu'il s'inflige comme punition quand il se sent toujours pécheur devant Dieu. Rien n'y faisait avant qu'il découvre cela. Impossible d'être conforme à la volonté de Dieu par ses propres forces. Il fallait donc se laisser faire, croire, et Dieu ferait le reste comme il l'avait fait en Jésus. Bien sûr, d'autres avant Luther avaient déjà questionné ces théories sur le péché et la grâce, et parfois même ils y avaient laissé leur vie. Dès la fin du XIVe siècle, un homme comme John Wycliffe développe l'idée selon laquelle on ne peut obtenir sa sanctification par soi-même, et que ni les pèlerinages, ni les dévotions de toutes sortes ne peuvent rien y faire. Wycliffe développe une théologie de la prédestination, lui qui vit dans un monde où la question du paradis et de l'enfer est omniprésente. Une prédestination dont l'homme, d'après lui, n'a aucune connaissance, et c'est cela qui change tout. Dieu déciderait pour chaque homme, mais aucun des hommes ne saurait ce qu'on décide pour lui dans le secret divin. L'homme est destiné au salut ou à la damnation, mais aucun homme ne sait à quoi il est prédestiné. Nous sommes donc tous égaux devant cet inconnu. Il en résulte que l'Église invisible, celle des prédestinés au salut, est la véritable Église de Dieu et nous ne la connaissons pas. L'Église visible, elle, est disqualifiée dans son pouvoir d'intermédiaire entre l'homme et Dieu parce qu'elle peut être composée uniquement de damnés après tout. Wycliffe prône la pauvreté des chrétiens et défend une vision radicalement spirituelle du peuple de Dieu. Les sacrements comme le baptême ou la scène sont interprétés comme des actes purement symboliques qui ne sont que signes mais n'ont aucune portée réelle. Ainsi, la présence réelle du Christ est niée chez Wycliffe. Mais le peuple de Dieu, le peuple de ceux que Dieu reconnaît comme ses enfants dans sa grande liberté, est le véritable peuple qu'il s'est donné. Avec une telle spiritualité, tout homme tout à coup a sa chance devant Dieu. Cela crée une sorte d'égalité énorme pour son époque. Chaque être humain est égal à un autre devant Dieu. Et dans ce geste très réformateur, contre l'avis des autorités religieuses de son temps, Wycliffe va traduire la version latine de la Bible, la Vulgate, en langue anglaise. Et au Concile de Londres, appelé Concile du tremblement de terre, car il y eut véritablement un tremblement de terre durant le Concile de 1382, lequel fut interprété comme un signe divin par les différents partis religieux représentés, les thèses de Wycliffe sont condamnées. Au siècle suivant, le Concile de Constance condamne de nouveau cette théorie et les traite d'hérétiques, et l'on exhume le corps de Wycliffe pour le brûler publiquement, dans un déchaînement de violence. Lors du même concile, Jean Hus, le théologien tchèque, défend les thèses de Wycliffe et sera brûlé, lui, le même jour. L'étoile du matin de la Réforme, comme les protestants appellent Wycliffe, a posé toutes les bases du débat qui aura lieu plus d'un siècle plus tard dans toute l'Europe. Martin Luther doit beaucoup à ce penseur du sacerdoce universel, de cette égalité des chrétiens. Et Calvin lui doit aussi beaucoup en ce qui concerne sa spiritualité de la sobriété. Ainsi, Jean Calvin n'a pas inventé non plus la prédestination, c'était une idée qui courait déjà depuis longtemps. Et Zwingli n'est pas le premier à affirmer la portée purement spirituelle de la Sainte Cène. Réformer la relation du croyant à Dieu occupa l'esprit de nombreux penseurs avant que Luther ait cette illumination dans sa cellule. Ce que Luther décrit dans le récit de sa conversion à la justice passive et qui rejoint les idées d'abord développées par Wycliffe, c'est l'origine de ce geste incroyable opéré par la réforme dans la chrétienté de son temps. Un geste qui vise à se passer du magistère de l'Église pour trouver sa justification dans la foi seule, en regardant sa propre foi, sans qu'aucun ne vous dise ce que vous devez croire. C'est dans la foi en Dieu, celle que lui seul donne, que se trouve la clé du salut de l'homme. C'est donc en l'homme croyant que s'opère le salut, promis avec l'exemple même de l'homme croyant, Jésus le Christ. C'est ce qu'affirme l'épître aux Romains de Paul en reprenant le verset d'Habacuc, « Le juste par la foi vivra ». Paul reprend plusieurs fois dans ses épîtres ce verset d'Habacuc. Mais Paul, dans l'épître aux Romains, est en train de poser les bases d'une orthodoxie ecclésiale qui va, au fil de temps, prendre le pas sur le message du salut du Christ. Il faudra instituer des communautés. En cherchant à organiser les communautés en églises visibles, en donnant des institutions, en créant en même temps un magistère, puisqu'il y aura des hiérarchies dans ces communautés, Paul s'appuie sur la théologie du sacrifice qui révèle le péché pour mieux l'absoudre dans la foi. Il garde l'idée très ancrée dans sa foi que le Christ est sacrifice vivant pour notre rédemption. Il ne demande pas tant aux nouveaux convertis de croire en Dieu que de croire au sacrifice de Jésus pour le pardon des péchés. Une telle théorie libère l'homme individuellement de la culpabilité, mais reste dans une théorie du sacrifice. Et qu'en est-il de l'injustice réelle entre les hommes ? Et peut-être premièrement de l'injustice qui a mené Jésus à la croix. Qu'en est-il de ce scandale ? Dans le zèle de Paul, dans sa foi en un Dieu qui le libère de la loi de Moïse, se trouvent aussi les germes d'une morale chrétienne, d'un ascétisme qui va faire retomber les hommes dans une autre servitude, celle de la dette envers la victime sacrificielle, Jésus le Christ. Jésus lui-même, dans ses rencontres avec ceux qui voulaient le suivre, d'après ce que racontent les évangiles, ne leur demandait pas de sacrifier leur vie. À celui qu'il relevait, il disait « Va, ta foi t'a sauvé et non pas « Tu me dois la vie ». À celui qui lui demandait « Comment te suivre ?» Il répondait bien qu'il fallait abandonner toutes ses possessions sans pour autant lui demander de les lui donner à lui. Quant aux annonces de martyrs, elles dévoilent un appel des évangélistes à tenir bon dans les persécutions, mais sans doute pas un appel du Christ à mourir pour une nouvelle théologie. Il est difficile de croire que Jésus ait fait de sa vie un signe vivant par la croix. Il est difficile de croire qu'il ait voulu ce qui lui est arrivé quand il a été crucifié. Il est plus aisé de penser que la méchanceté des hommes s'est déchaînée sur lui comme elle se déchaîne encore aujourd'hui, sur d'autres hommes pourtant justes. Paul utilise le verset d'Habacuc en y introduisant un élément que le prophète ne pouvait pas intégrer dans sa pensée, Jésus comme Messie, Jésus comme victime d'un sacrifice. Le risque de la théologie de la justice passive que Luther semble avoir trouvé dans l'épître de Paul, c'est de faire du salut un salut désincarné, puisque les souffrances du Christ sont alors devenues spirituelles. Ce scandale deviendrait alors presque acceptable. Que veut dire être justifié devant Dieu si l'on ne parvient pas à empêcher la condamnation du juste ? Et pire encore, si l'on y voit un moyen d'expiation des fautes de tous les autres. Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes ? Jusqu'à quand crierai-je vers toi violence sans que tu sauves ? Faut-il supprimer ce reproche sous le prétexte d'une épreuve salvatrice ? Minimiser ce que crie Habacuc à son Dieu ? Et si l'on supprime cette révolte du cœur de l'homme en lui donnant l'assurance de sa tranquillité, en lui disant qu'avec le salut par la foi, il est sauvé, il n'a pas à s'inquiéter pour la suite, qui criera encore pour les pauvres, les sans voix, les invisibles, les sans domicile, les sans terre, tous ces humains sans droit que les prophètes ont défendus au cours des âges? La foi d'Habacuc, très différemment de celle de Paul, apparaît comme un cri et non pas comme la résolution d'un problème théologique. Et quand Luther relate son illumination en lisant ce verset, son entrée dans le paradis, comme il le dit, va se traduire pratiquement par une entrée en combat et non pas dans la tranquillité. Un combat avec une Église qui marchande le salut de Dieu et entretient de manière injuste la dette des fidèles. Car enfin, si l'homme est marqué ontologiquement par le péché, il n'a pas à chercher sa rédemption dans ses propres œuvres. Donc soit Dieu fait alliance avec l'homme dans son état imparfait, soit il n'est pas un Dieu sauveur et qu'il l'aime inconditionnellement. Il y a donc un problème ici, une sorte de jeu de dupe. Et l'Église en a usé pour faire peur aux gens, pour leur faire acheter le paradis et faire sortir ceux qu'ils pleuraient du purgatoire. Habacuc est le prophète de l'intranquillité du croyant. Pour lui, point de salut à l'horizon, mais la guerre, la corruption, les excès en tout genre. Pour lui, pas de leçon à donner aux autres sur le Dieu auquel on doit croire. Il ne s'occupe pas de chercher à convertir ses amis ou bien ceux qui ne croient pas comme lui, mais il évoque et il crie une protestation d'abord devant son Dieu, en vis-à-vis, en toute colère, en toute indignation. Habacuc sait que les temps difficiles ne sont pas finis. Au contraire, il frémit en attendant le jour de la détresse. Et pourtant, contre toute attente, il va sortir de sa colère par la contemplation et la reconnaissance. Dans le psaume qui conclut le livre, il dit « Mais moi, j'exulterai dans le Seigneur, je trouverai de l'allégresse dans le Dieu de mon salut. Dieu, le Seigneur, est ma force. » Après avoir crié, s'être rebellé contre Dieu, Il trouve enfin le secours de ce Dieu qu'il essaie de contraindre à lui répondre. Et Dieu lui a répondu. Qu'il soit dans la colère contre l'injustice ou dans la confiance absolue en un Dieu qui lui donnera la force de se battre, Habacuc reste dans une relation fidèle à Dieu. Il se confie en lui, dans la colère comme dans la paix. Cette foi-là justifie sa vie, son combat pour la justice, son combat de prophète. Sa colère même est acte de foi et elle l'amène à se rendre compte que Dieu maudit avec lui ceux qui créent l'injustice. En effet, au centre du livre prophétique, 5 malédictions vont être prononcées par Dieu dans sa vision. Alors Habacuc se rend compte que Dieu est avec lui dans son indignation et qu'il n'est pas seul à vouloir que cela soit changé. Cette indignation est une révélation intime de ce qui fait qu'un homme est un homme, de ce qui l'hominise, comme le disait Théodore Monod, en le rendant capable de maudire l'injustice et de lutter contre elle avec l'aide de cette pensée de Dieu toujours en horizon, certes inaccessible dans la perfection et pourtant toujours là pour nous conduire à vouloir faire mieux, autrement. Dans ces 3 chapitres du prophète Habacuc se dessine le geste de la conversion découvert par les réformateurs. D'abord un cri vers Dieu, un constat cuisant du hiatus entre la vie des hommes, leur situation et leur humanité promise dans les Écritures. Comment cette fracture était-elle possible? Puis la méditation des Écritures et des promesses qu'elles contiennent et enfin la révélation de la grâce de Dieu toujours présente pour aider celui qui se bat contre l'injustice. Quand la foi dépasse la colère, quand la confiance en Dieu réussit à renverser cette injustice. Oui, les méchants fleurissent comme l'ivraie des champs, comme le dit le psalmiste. Oui, la violence semble toujours gagner. Oui, l'injustice semble toujours la plus forte. Mais devant nous, comme un horizon, il y a la paix et la justice annoncées dans les Écritures. Et croire la paix et la justice toujours possible est une justification de la vie humaine. Croire cela, c'est croire que l'on peut devenir un homme meilleur. C'est croire que l'on peut se réformer. La réforme a annoncé que par la foi le juste vivra, non pour exempter le croyant d'agir contre le mal, non pour permettre à une église de se croire tranquillement installée dans le salut, comme si elle était enfin arrivée à la vérité. Au contraire, la réforme protestante est un cri de protestation contre la misère de l'homme et pour la dignité de l'homme. Aujourd'hui, ce n'est donc pas la réforme de l'Église que nous fêtons, mais la foi de Dieu en la capacité de l'homme à se réformer sans cesse. Amen.